RMC, 9h midi.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules.
1, 2, 3, 4.
Nous sommes là, bonjour à tous. Nous sommes là, fidèles au poste de radio et de télévision. Elle est bonne. Et on vous attend bien sûr au 32-16. Bonjour Olivier.
Ah là, il se fait des blagues à lui-même.
Oui, parce que là, on n'a rien compris. C'est pas grave.
Bonjour Alain, fidèles. Nous sommes fidèles au poste de radio et de télévision.
Ah oui. C'est comme ce matin quand t'as dit à Fatima et ton père il est pas vitrier parce qu'elle était devant le tableau, on t'a dit c'est des blagues des années 80.
Mais c'est même moi ton père il est pas vitrier, c'était même les blagues des années 60, oui, 70. Mm-hmm. Une époque quand j'étais à l'école. Bonjour Barbara Lefebvre.
Bonjour à tous.
Enseignante en histoire géographie. Bonjour Fatima Hidbounois, professeur de français. Bonjour.
Bonjour les grandes gueules de Londres et notamment des auditeurs. Alors c'était amusant de suivre
les
vies différentes. Donc je salue Olivier qui s'occupe de ses chèvres, et non, il y en a trois. Morgane qui vient d'accoucher, elle, sous cette canicule, c'était terrible. Mm-hmm. Et le troisième, c'est Cédric, le routier, qui nous écoute en conduisant. Et ce qu'il me disait, c'est qu'on l'énerve tellement qu'il écrase son volant comme ça. Ah mais bon. Il aime bien quand même notre compagnie. Ah. Donc voilà.
Abel Boyi, tu es entouré de deux profs, monsieur l'éducateur.
Ouais, exactement.
Bonjour
j'ai
Abel.
J'ai un peu à me tenir à carreau. Salut les amis.
De quoi va-t-on parler aujourd'hui dans les GG, dans les grandes gueules? Avec vous, bien sûr, au 32-16. On a des sujets de discussion qui vont vous faire réagir. On reviendra sur la date de la prochaine élection présidentielle. Ça y est, on l'a, le 18 avril et le 2 mai. Est-ce que ce sont des dates qui arrangent la gauche? Nous recevrons Nathalie Saint-Cricq, l'éditorialiste politique de France Télévisions. Édouard Philippe, le candidat à l'élection présidentielle. On ne s'en sortira pas si on ne travaille pas plus, dit-il. Mais avant de parler de notre ami Hamza Ladouane, le gamin du canal Saint-Martin, à savoir si c'est juste un petit déconneur ou si c'est de la graine de voyou, on va quand même un peu parler des Bleus.
La frappe de Mbappé ! Oh, quel but ! Kylian ! Mbappé permet aux Bleus déjà d'être en 8e. 3-0 !
C'est vrai qu'on a une équipe. Alors, il a fallu tenir jusqu'à 23h déjà, ensuite tenir 2h. On s'est couché aux alentours de 1h du matin. Mais on a une équipe de France, il faut le reconnaître, hein, qui régale et qui régale la presse internationale, le public mondial grâce à son efficacité.
En très longtemps, j'ai à Didier Deschamps de proposer une France qui était surtout défensive. Ah, c'était important, exactement. C'était de défendre et on disait ah, il manque quand même avec Deschamps de la flamboyance, ce football champagne qu'on aime bon, chez d'autres équipes. Et là, bah, il nous offre le football champagne. Alors, c'est parce qu'il a des joueurs et notamment des attaquants exceptionnels. Mbappé, le nouveau chouchou des Bleus, c'est Olysée, on l'a bien compris, qui a fait une prestation extraordinaire. Après, moi, pardon, mais je fais partie un peu des rabat-joie. C'est-à-dire que pour l'instant, on a rencontré des équipes assez faibles. La Suède, j'ai trouvé ça très très faible hier. Aucune réaction. Donc, prudence. Le plus dur reste à venir, même si on est très content déjà de ce parcours.
On a rencontré des équipes assez faibles parce que le format est passé à 48 équipes, forcément. Donc, il y en a qui critiquent. Je sais que Daniel Riolo, que je salue, est vraiment vent debout contre cette formule. Après, c'est bien, ça permet de voir un football un peu exotique, mais je pense que la Coupe du Monde va vraiment commencer à partir des huitièmes de finale. Comme tu le dis, devant, on a quatre joueurs qui sont très percutants et qui sont très rapides. Et la chose que l'on pouvait se dire, c'est qu'on pouvait être exposé à des contre-attaques, mais au milieu, c'est solide. Adrien Rabiot, Tchouaméni, c'est vraiment formidable. La défense aussi. Je pense que l'on est favori. Maintenant, il faut faire attention, mais ça fait du bien d'avoir une équipe de France qui joue et qui va de l'avant et qui a beaucoup d'occasions.
C'est bon pour le moral, Fatima?
Écoutez, moi, hier, il y avait la fête du collège.
Alors, est-ce qu'il y avait des maillots Mbappé, Olysée?
Ah, bah, l'école, oui, bien sûr. Mais fête du collège, bal des troisièmes. Donc, les 2011 étaient tous bien habillés, mais certains, effectivement, étaient en tenue de sport.
C'est un petit peu pécho.
Mais fête. Non, ils étaient très beaux. Alors, c'était amusant de les voir. Ils faisaient tous plus grands. On a envie de pleurer. Moi, j'ai toujours envie de pleurer pour les fêtes. Ému par mes 2011 qui sont en train de partir.
Elle pleure de joie parce qu'ils se tirent.
Ah, pour ça, ils s'en vont. Pardon, madame. On a été horrible.
Ah, bah, c'est bien.
Mais non, mais donc j'étais debout parce qu'après il y avait la fête des adultes et effectivement on a mis le match à côté et les collègues, plusieurs collègues suivaient, aller danser un petit peu et puis aller suivre le match. Donc c'était
pas le
c'était
match
amusant.
Des Bleus parce que c'était à 23h.
Ben, si, si. Hein. Ouais, mais si, ça c'est le match des adultes.
Les adultes après. Ah, les enfants, oui. Ça finissait
à 21h. Et là ça
pécho
aussi.
Et ensuite les adultes, non. Et les adultes ont continué la fête jusqu'au bout de la nuit, donc jusqu'à 1h du matin.
Wow.
Oh là là.
Alors Barbara, toi bien sûr, t'étais dans ton match à 23h.
Elle a dormi.
À 23h, c'est déjà 4h qu'elle dormait, Barbara.
Mais en tout cas, je constate que Kylian Mbappé est meilleur avec ses pieds que quand il tweet. Voilà, donc moi, je dis, Kylian, continue à jouer au ballon et arrête de tweeter.
Il y a un petit truc assez amusant.
Sinon, je m'en fiche complètement, je n'ai pas vu le match. Mais c'est... tant mieux pour les Français.
Il y a une polémique qui est en train de partir, là, politique sur ça. Parce alors que bon. Ce matin, chez nos confrères d'RTL, Édouard Philippe a dit « L'équipe de France est impressionnante, mais ça ne veut pas dire qu'elle va aller jusqu'au bout ». Et ça fait réagir Xavier Bertrand.
De lui, hein.
Ça veut dire, oui, mais peut-être, ça fait réagir Xavier Bertrand qui lui a dit, avec ce genre d'état d'esprit, on ne gagne jamais. Alors, qui a raison? Est-ce que c'est Xavier Bertrand en disant cet état d'esprit, on y a attention, prudence, etc. ou c'est Édouard Philippe qui a raison d'être un peu rationnel?
Sport, hein. Non, mais la symbolique, elle est quand même intéressante, ouais. Même si on dira qu'on tire par les cheveux Édouard Philippe qui s'improve, qui comment dire, il se présente comme le winner, comme le mec qui veut incarner l'avenir, comme le mec moderne, se retrouve à être frileux sur une hypothétique élimination de l'équipe de France. Et nous sommes face à un statut qu'il faut assumer. Et la mentalité française aussi doit être fière.
Édouard Philippe.
Ouais, bah effectivement, beaucoup trop frileux.
C'est vrai qu'il faut rêver. Non, mais c'est vrai. Je trouve qu'on ne fait pas assez rêver les Français. C'est vrai. Ça fait 10 ans qu'on rêve pas beaucoup et que c'est plutôt la réalité qu'on prend dans la tronche. Donc, il a raison. T'as raison, Abel, il faut continuer à rêver.
Et, et puis, il y a des moments où on ne doit plus douter. C'est comme pour un examen.
Oui.
Vous voyez, pour la préparation du brevet, moi, pendant toute l'année, je leur disais on y va, on travaille là, on peut avoir des doutes. Mais le jour de l'examen, tu ne doutes pas devant ta copie. Après, t'es le meilleur. Une fois que t'es devant ta copie, t'es le meilleur et tu y crois. Sinon, c'est pas la
peine. Est-ce qu'on ne risque pas aussi parfois de pécher par excès de confiance?
Non, mais au moment, excès de confiance, tu pèches par excès de confiance.
Trop sûr de toi.
Si tu es trop confiant avant, si tu dis c'est bon, j'y vais au talent, c'est facile, je ne me prépare pas. Mais donc là, oui, tu vas, il y a un problème. Mais si tu te prépares et que tu doutes avant, mais dans l'action, tu ne doutes pas. Donc le problème, c'est pas le doute, c'est le moment du doute. Donc là, il est en décalage, notre ami.
Et le prochain adversaire des Bleus, c'est le Paraguay. Hein. C'est samedi soir, c'est à 23h.
Ça rappelle de vieux souvenirs.
Et c'est quand l'Argentine? Parce que moi, j'aime bien l'Argentine.
En finale.
A priori, si on suit le tableau, ça pourrait être en finale.
Bah, on peut ne les rencontrer qu'en finale, de toute façon.
Ah bah, ça, c'est le seul match que je vais regarder.
Ça serait bien pour la revanche.
Ouais, pourquoi?
Tout le monde attend ça.
Parce qu'on a perdu.
Ah, c'est vrai, bah oui, voilà. C'est pour ça que je...
en fait Barbara, c'est le match Javier Milei, Emmanuel Macron.
Elle
c'est
va crier Afuera devant son écran de télé.
Elle veut qu'on se fasse tronçonner.
Je ne politise pas tout, c'est pas vrai du tout.
Allez, justement, il y en a aussi, tiens, qui a une sacrée confiance en lui. Il doute de rien. Il s'appelle Hamza. Il a 14 ans. Il est du côté du canal Saint-Martin. Vous en avez entendu parler. Il s'appelle, on le surnomme La Douane. Alors, depuis qu'on en parle, et hier on l'a un peu évoqué dans les grandes gueules, le tweet, savoir si on a affaire à un petit déconneur, un simple trubillon ou de la graine de voyou, 32-16 pour en discuter avec les GG.
Ça a commencé en mouillant des gens, et des gens ils étaient contents, et des gens ils n'étaient pas contents. Ah, c'est tout. Hein. Bien, la plupart non. Après je fais rire les gens, et même des mamans ils prennent des photos avec moi. Avec les fortes chaleurs, j'ai rafraîchi les gens.
C'est comment ils réagissent, les gens?
La plupart, ils disent, vas-y, mets-moi un peu sur la nuque. Et je dis, arrête, j'ai pas de nuque. Et j'ai arrêté. Et voilà. Et ils rigolent, et je rigole pas. Excusez-moi, monsieur. Si vous n'étiez pas content, je m'excuse. Et après, je me taille.
Non. Voilà le petit Hamza qui répondait aux questions d'Antoine Forestier hier sur BFM TV.
Alors pour ceux qui n'ont pas suivi cette histoire, en fait, Hamza est devenu une vedette des réseaux sociaux parce que lui-même il se met en scène sur Snapchat où il se filme. Alors au début c'était sympathique parce qu'il se filme avec un pistolet à eau canal Saint-Martin, il tire sur les gens, il tire même à un moment donné sur des policiers municipaux qui lui répondent avec un pistolet à eau. Donc on est dans un truc un peu festif. Et puis on s'aperçoit quand même en regardant un peu plus près ces vidéos qu'Hamza c'est quand même une petite erreur parce qu'il a alors, c'est pour ça qu'il s'appelle Hamza La Douane. Enfin, il est surnommé Hamza La Douane parce que il rackette les gens. C'est-à-dire, si tu passes dans ta rue, il faut lui donner 2 euros pour pas se faire arroser. Il a acheté une jeune femme à l'eau. Il a acheté aussi un vélo dans l'eau. Il a insulté une personne chez qui il rentrait.
Il a volé dans un supermarché.
On l'a traité. Et,
à la terrasse d'un restaurant aussi.
Il filme à travers des appartements. Il a volé une bouteille, etc. Et donc, on est face à un petit gars de 14 ans qui semble incontrôlable. Laissé un peu comme ça, il fait ce qu'il veut. Ses parents le soutiennent. Donc, il est pas vraiment vraiment cadré par les parents. Il a été quand même convoqué une fois. Il a pris une amende pour baignade interdite. Alors Hamza, est-ce que c'est un gentil gars, un gamin un peu turbulent, ou est-ce que c'est une graine de voyou?
Rien ne va, disait Fatima. Fatima au 32-16. Vous réagissez.
Rien ne va. Moi, j'ai l'impression de vivre dans une dimension parallèle où rien ne va dans cette histoire avec nos sujets. Alors déjà, dans le traitement, dans la place que prend ce garçon, méfiez-vous, parce que là vous en avez un, vous allez en avoir 10, parce que vous allez donner envie à d'autres ados de devenir des stars. Ils vont se dire, ah bah tiens, elle est belle, on parle de moi, là on a des entretiens, on lui parle comme s'il avait créé quelque chose.
Ah bah
de
c'est
positif.
Devenu une attraction médiatique.
Non mais c'est catastrophique. Donc déjà le traitement médiatique, catastrophique. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les réactions des adultes. J'ai l'impression que les adultes sont démunis. Je vois des adultes qui parlent de lui. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on va faire? C'est un adolescent. Faudrait mettre des limites. Donc là, moi, j'attends des actions. Certains minimisent. Ah, on dirait que c'est Mimi Cracra ou Ducobu. Il mouille les gens. Il fait des bêtises. Non, il jette des pousser une femme dans l'eau, ce n'est pas jouer, c'est pas jeter de l'eau avec un pistolet. Donc, quand on a des faits de délinquance,
toi tout à l'heure, quand on a préparé le sujet, après, tu m'as dit des Hamza, j'en ai plein ma classe.
J'en ai plein dans le sens où j'ai l'impression que les médias découvrent des ados qu'on voit tous les jours. Je pense à Belle.
Tout le monde n'est pas prof.
Mais
tout le monde n'est pas éducateur.
Les adultes découvrent, et c'est ce qui m'agace le plus. C'est-à-dire que quand les professeurs disent voilà, on a des élèves difficiles. Et encore lui, c'est le début d'un élève difficile. Exactement. J'ai vraiment des élèves mille fois pires que lui. Et quand on vient parler des ados en disant voilà, il y a des difficultés du nombre d'enfants, en disant ah, vous savez, des fois on a des élèves difficiles à gérer. Lui, j'aurais même pas dit comme difficile à gérer. Hein. Vraiment, t'en as 10 comme lui. Un élève difficile, c'est vraiment encore pire. Et quand on vient en parler, on nous dit « Oh, arrête de te plaindre », sans avoir marché dans nos chaussures. Donc déjà, j'aimerais bien que les adultes qui sont déjà en PLS face à ce garçon-là, j'aimerais bien qu'ils nous écoutent plus quand on parle de la difficulté d'être face à des ados. Maintenant, la différence, c'est qu'ils sont dans les rues parce qu'ils ne sont plus en cours.
Bien sûr.
Mais d'habitude, on les a en cours. Donc là, et ce n'est que le début, vous allez les découvrir. Mais moi, j'ai du mal avec, un, la starification, deux, avec la minimisation d'un côté, donc Mimi Cracra ou Ducobu, et de l'autre côté, ça y est, c'est Pablo Escobar. On dirait que vous, cette pensée binaire sans action. Donc on va commenter. Moi, j'attends des actions sur le terrain. Quelqu'un qui pousse dans l'eau, qui jette un vélo,
d'accord,
ou qui vole. C'est de la délinquance.
Les
parents aussi. Enfin, juste pour finir.
C'est ça, la première des actions, c'est aux parents.
J'entends les parents qui disent, et lui aussi, ils disent non, mais mes parents. Est-ce que tes parents? Oui, mes parents. Ils trouvent.
Mon père, il m'a dit, il est cool tant que tu fais pas de bêtises.
Non, ça s'appelle faire des bêtises. Et surtout le père qui dit mon fils est gentil. Non, là à un moment, jeter des bouteilles, c'est pas l'eau qu'il jette, c'est les bouteilles.
Il y a même, je lisais le patron d'un bistrot du quai de Valmy, le connaît, a dit bah là, alors il arrose ma terrasse en plein service avec un pistolet à eau, puis il sert sur les tables aussi.
Non, mais elle est à question
de Barbara.
Fatima, d'éducation, d'absolument tout. Y a
Fatima
rien
a dit l'essentiel, mais Hamza, il a des parents. C'est-à-dire que ce qu'on voit, l'enfant qui annonce, parce que, excusez-moi, là, vous trouvez que c'est un niveau de vocabulaire d'un élève de 14 ans? Ça veut dire que lui, dans un an, il passe le brevet des collèges.
Mais faut
il
pas
passe l'oral du brevet des collèges. Ça, c'est ça le niveau de langue d'un élève qui ambitionne.
On ne sait pas son niveau scolaire, il ne doit pas être si.
Ah ben, j'en sais rien, en tout cas, vu comment il s'exprime, je vois qu'il y a quand même quelques lacunes. Mmh. Mais évidemment, ça doit être la faute à la société, bien entendu. Et donc, je n'ai qu'une question, parce qu'il a 14 ans, je pense que pour en être arrivé là où il en est, aussi bien dans l'attitude que dans la totalité de la personne, excusez-moi, parce qu'on voit quand même un certain laisser-aller chez lui, tout ça est le reflet de graves carences éducatives. Alors, j'aimerais savoir ce que le juge d'affaires familiales, ce que les services sociaux ont l'intention de faire.
Donc, il devrait se saisir du dossier, c'est ce que
oui,
tu dis.
Oui, parce que j'ai comme l'intuition que papa maman ont des petits problèmes d'éducation et que
papa maman le soutiennent.
Il y a peut-être oui, bah justement, c'est tout le problème parce que je ne compare pas du tout Hamza Ladouane, ou je sais pas comment il s'appelle.
Hamza Ladouane.
Oui, Ladouane, parce qu'il rançonne comme Obled,
oui,
il
oui
a dit. Non, en plus il est formidable parce que alors je vais vous dire dans le genre pousse le vote de la droite radicale. Bravo, c'est que alors lui, il y va à fond, hein, parce qu'il explique. Moi, je rançonne, bah oui, parce que comme quand on est au bled pour passer, il faut donner de l'argent aux policiers.
Non, bon,
merveilleux. Et donc, ses parents doivent être fiers de lui. Peut-être qu'il trouve qu'il donne une bonne image de son pays d'origine, puisqu'apparemment, il a l'air de promouvoir l'Algérie ou je sais pas quoi.
Oui, il est souvent, on le voit se balader avec son drapeau algérien sur, sur le dos. Avec son drapeau
Mais est-ce que Barbara, est-ce qu'on n'en fait pas trop autour de lui?
Non,
est-ce
les parents.
Il a 14 ans.
Moi, maintenant, je suis pour mais qu'on filme les parents, qu'on arrête d'aller filmer Hamza, machin, qu'on aille faire parler les parents, parce que j'ai comme souvenir de la mère d'un certain Mohamed Amra qui nous a expliqué, mais mon fils, il est gentil, mon fils, il portait les cajots des personnes âgées dans l'immeuble. Donc moi, je commence à avoir ras-le-bol. C'est pas le jeune en soi. Je veux qu'on aille taper les parents. Et si ces gens-là, je suis désolée, si ces gens-là touchent des allocations, tous des allocations, etc., il va falloir sérieusement revoir la chose.
Il faut quand même parler aussi des réseaux sociaux, parce
qu'il rembourse ce qu'il a volé.
Il s'est fait connaître en se filmant pour les réseaux sociaux, Abel.
Ouais, exactement. Bah, comme je disais hier, on a eu un débat assez lunaire sur le plateau de BFM. Beaucoup de jeunes, pour devenir n'importe qui, sont prêts à faire n'importe quoi. Ouais. Mais j'aimerais revenir sur les parents, parce qu'il y a une inversion des valeurs. À l'époque, un enfant qui s'affiche comme ça, mais le père, il lui met une torgnole. Moi, j'ai grandi dans une époque... Je suis pas en train de faire l'apologie de la violence sur les enfants. Moi, j'ai grandi dans une époque où, lorsqu'un parent réussissait l'éducation de son enfant, c'était aussi un marqueur de réussite sociale, même si financièrement, la situation pouvait être difficile. Et nos parents nous disaient, comportez-vous bien, vous allez être respecté dans la société, et on ne dira pas que vos parents vous ont mal éduqué. À l'époque, des parents auraient mal réagi sur ça. Ils n'auraient jamais...
Ils auraient eu honte.
Mais oui, ils auraient eu honte et jamais ils n'auraient encouragé leur enfant parce qu'ils sont juste contents que l'enfant soit médiatisé. Donc les réseaux sociaux sont même en train de corrompre certains parents parce qu'on veut tellement courir après la starification et c'est quelque chose de très dangereux. Donc ce Hamza Ladouane, comme je disais hier, c'est pas Al Capone, mais moi, comme je vais faire copier-coller de ce que j'ai dit hier, moi je regarde, j'essaie d'anticiper l'après. Voilà. Quelqu'un à 14 ans qui est capable de pousser une personne dans l'eau que tu connais pas. Ouais, d'accord, c'est-à-dire la personne peut se noyer, voilà, en plus avec les températures et compagnie, tu voles les boissons des gens en terrasse de café, ça s'appelle de la délinquance. Oui. Voilà. Donc là, on est dans un schéma qui commence à être amorcé, comme j'ai dit hier, il est récupérable, mais ce que je n'aime pas, c'est que ce mec, ce petit, il est déjà une star en fait. Oui, c'est-à-dire faut imaginer
Abel. Oui, mais Abel, ce que je comprends pas, c'est que pourquoi tout le monde semble intimidé.
Ah mais c'est ça qui est fou.
Dans ce quartier, dans ce petit môme. Écoute,
les adultes ont démissionné de leur rôle d'adulte. C'était ma question. Évidemment. Qu'est-ce qui a fait, à quelle époque et quelle idéologie a créé ce basculement qui a fait que les adultes, en tant qu'éducateurs, se sont dit, maintenant, faut laisser faire les enfants. Ben, moi, je vais vous le dire. C'est les années 80-90, l'idéologie de gauche nous a dit, c'est l'enfant au cœur du système éducatif, c'est l'enfant roi.
Donc, on a peur des enfants.
Il y a plein de les parents. Adultes ont peur d'être des éducateurs. C'est tout. Les adultes ont peur de poser des limites aux enfants parce que, en face, il y a une idéologie qui leur dit, quand vous posez des limites, vous êtes dans l'autoritarisme et vous êtes à la limite du fascisme.
Alors, on va continuer la discussion.
L'idéologie,
continuer la discussion. Vous venez d'entendre dit l'éducateur et nos deux profs. Abel, Barbara et Fatima. Hamza Ladouane, graine de voyou, petit trublion. Dans un instant, Guillaume avec nous. Il est du côté des Pyrénées-Atlantiques. Il veut réagir. Le 32-16 est à votre disposition. Il est 9h20. Vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story.
RMC.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les grandes gueules. 1, 2, 3, 4.
Il est 9h25, vous êtes avec les grandes gueules en direct sur RMC, RMC Story. On débat, on discute, on a notre éducateur qui est là, Abel Bouilly, nos deux profs. L'histoire-géographie, c'est pour Barbara Lefebvre. Le français, c'est pour Fatima Hidbounois. Et puis on a, je sais pas s'ils auraient aimé l'avoir entre les mains ou s'ils se dévoraient maintenant pour l'avoir entre les mains tous les trois. Le petit Hamza, vous savez, du canal Saint-Martin. On parle beaucoup de lui, c'est parti des réseaux sociaux. Et puis au fur et à mesure, on découvre ses agissements, son comportement. Et on se demande... qu'est-ce qu'on doit en faire de ce gamin? Est-ce que c'est un petit trublion qu'on va vite recadrer ou est-ce qu'on a vraiment à faire une graine de violence, une graine de voyou? Guillaume, bonjour.
Et bonjour à tous.
Qu'est-ce que vous en dites, vous, Guillaume? Enford.
Ah bah, c'est pas du tout... le laisser faire comme il le fait, c'est plus possible. On peut pas aujourd'hui cautionner, en fait, les médias ne peuvent pas cautionner un gamin qui raquette, même si c'est pas grand-chose, ça reste du raquette. Qui insulte une dame en la traitant de sale pute, et alors que derrière, il n'y a rien qui est corrigé, il n'y a personne qui vient lui rentrer dedans, c'est pas possible. C'est impossible.
En plus, il entraîne une petite bande, vous avez vu, il entraîne une petite bande avec lui aussi.
Et le père qui cautionne derrière, Mais moi, mais j'aurais fait ça gamin, mais je suis désolé, j'aurais pris une tarte et je serais allé m'excuser auprès de tout le monde.
Non, et puis en plus, même sans prendre, parce qu'il y en a plein qui disent j'aurais pris une tarte, mais il y a aussi la force dissuasive. C'est-à-dire qu'il y a des parents, non mais il y a des parents où on sait, voilà, vous voyez qui.
On peut le faire autrement.
L'autre, voilà, c'est ça. Mais c'est un cadre.
J'ai pris des gifles dans ma vie, je peux les compter sur les doigts d'une main.
Voilà.
D'accord. Et je peux vous dire quand, comment et surtout pourquoi je les ai prises. Je me souviens de toutes et c'était mérité. À chaque fois.
Mais là,
ça m'a pas détruit. Aujourd'hui, j'ai jamais levé la main sur mes deux enfants. On arrête. Il y a un moment où la punition, elle est salvatrice.
Mais là, le problème avec cette histoire, et pourquoi ça prend, pourquoi la douane prend presque plus de place que le détroit d'Ormuz, là, c'est parce que les gens sont exaspérés. C'est-à-dire, ils ne parlent pas de ce petit garçon-là, ils parlent de l'adulte face aux enfants et des adultes face à la petite délinquance qu'on a souvent appelée incivilité, mais c'est pas suffisant. Et le côté,
oui, mais...
comment dire, l'absence de réaction des parents, parce que nous, sans parents, on ne peut rien.
Mais même, des adultes.
Regardez, non, mais juste
gens,
sur un truc.
Les gens parce sont que... exaspérés et deviennent aujourd'hui. On parle de racisme, on parle de tout. Il n'y a pas de racisme en France, il faut arrêter. On devient tous racaillophobes. On n'en peut plus de ces petits jeunes qui font la loi dans un quartier, c'est quand même fou, et que personne ne dise rien.
Oui, mais pourquoi si personne ne dit rien? Pardon, Guillaume, moi, ce qui m'interpelle.
Moi, ça fait longtemps que je l'aurais pris.
Ce qui m'interpelle, je vous pose la question, parce que les parents sont pas là, d'accord. Ils sont démissionnaires.
Les parents disent.
D'accord,
le
mais une
faux.
Fois que les parents sont pas là, je suis désolé, c'est bourré d'adultes dans ce quartier. Et on a l'impression que les adultes ont peur d'un gamin de 14 ans.
Moi, j'ai vu quelques images. À un moment, ils attaquent une voiture. Oui. Parce qu'ils sont plusieurs, hein. Donc, pour arrêter aussi guette que sur Hamza, machin.
J'ai dit, il y a toute la bande avec.
Il y a un monsieur, il en a marre parce qu'il l'empêche d'avancer. Il sort une petite béquille. Il essaie de leur taper dessus. Mais moi, je vais vous dire, s'il leur tape dessus, ça va aller chouiner à la police. Il m'a frappé. Non. Il m'a fait mal. Et qu'est-ce qu'on sera obligé de faire? On sera obligé d'écouter le jeune. Le monsieur sera convoqué.
Ouais, mais il y a pas
donc,
que ça.
Et autre sujet. Vous croyez que quand vous êtes entouré d'une bande de 5, 6, 10 jeunes, vous allez dire quelque chose? Parce que si ils vous mettent par terre, et qui vous roue de coups, vous faites comment si c'est vous qui, vous ou votre enfant, ou vous baladez votre chien et qui donne des coups de pied dans votre chien, parce que c'est le même style aussi. Hein. Ils adorent aussi filer des coups de pied dans les chiens parce que ils ont pas de respect généralement pour les animaux. Donc moi je vous dis, les gens ne réagissent pas parce que ces gens-là font peur et c'est ça leur but, c'est d'occuper la rue de la même façon qu'ils occupent le canal Saint-Martin. Ils se filment. Ouais. Et d'ailleurs ça me permet de dire, de donner tout mon soutien à Lenny qui a été tabassé par 15 jeunes à Colomiers et son papa Christophe, il a été tabassé par 15 jeunes, il aurait pu mourir dans les mêmes conditions que Louis. Et je regrette qu'on n'en parle pas parce que ces 15 jeunes, ils sont connus par la police quand le papa de Lenny est allé porter plainte. Ils lui ont dit, on les connaît tous, c'est une bande qui agit, ils l'ont laissé, il est meurtri de coups. Vous savez quand est-ce qu'il a rendez-vous avec la médecine légale pour faire constater ses blessures? Le 22 juillet. Voilà ce que c'est ce pays où vous vous faites lyncher, pour rien, hein. Il s'est fait lyncher parce que il avait pas de cigarette à leur donner. Donc c'est ça ce pays, donc pourquoi vous voulez que les gens réagissent? Parce que quand ce pauvre Lenny, en pleine journée, à un abribus, il s'est fait lyncher par 15 tarés, et je suis gentil, je mets un gentil mot hein, à côté de ce que je pense vraiment, les gens, qu'est-ce que vous voulez? Moi, j'aurais été à côté. Mais... qu'est-ce que je fais? Sinon, c'est moi hein, qui finis par terre aussi.
Mais moi,
voilà, ça, c'est la France de Macron.
Merci, Guillaume, d'avoir été dans
l'île de France.
Et
la France est un pays où il y a énormément de rixes et il y a énormément de jeunes qui sont armés. Donc, en réalité, quand vous voyez un groupe de 5-6 jeunes, vous ne savez pas sur quoi vous pouvez tomber.
Ça, c'est vrai.
Bah oui, s'ils sortent un couteau, vous ne savez pas. Après, eux, ils pourront toujours dire on n'a que des pistolets à eau, mais vous vous faites agresser dans votre véhicule, vous ne savez rien du tout. Il y a la loi, entre guillemets, de l'effet de bande.
Sauf
et la loi
que
du
là,
monde.
Abel reconnaît, on les voit, ils sont tous torse nus, ils ont tous des pistolets à eau et des portables.
Ouais.
Donc tu vois bien qu'ils sont.
Tu peux te faire lyncher quand même.
Non, mais je veux dire, c'est pas un guet-apens. Ils sont sur la voie publique, au vu et au su de tous les riverains. C'est là où Barbara a raison. Il suffirait à ce moment-là peut-être de sortir de la voiture, enfin pas le monsieur qui a la béquille, mais dire allez maintenant, stop, ça suffit, foutez-moi le camp.
Ça va se finir comme ça. Ça va se finir un jour qu'il y a des gens qui vont se faire.
Ça devrait ramener de l'ordre.
Non, mais ils savent très bien.
société, je te laisse, cette société où il est devenu interdire d'interdire, où même le mot, où on n'enseigne plus aux jeunes que l'interdit lorsqu'il est juste, c'est une bonne chose, c'est en train de nous tuer. Et on a décharné l'adulte de l'autorité sur l'enfant. Nous, à l'époque, on pouvait faire des bêtises. Le père même d'un de nos potes pouvait venir nous engueuler comme si c'était notre propre père.
Ça se passe autour de toi, qu'est-ce que tu fais?
Mais moi, je vais leur parler, mais bien sûr. Et ça m'arrive de le faire. Hein. Je vais te dire, c'était il y a deux semaines, il y avait des jeunes qui parlaient un peu fort dans la rue et je suis allé les engueuler comme si c'était mes petits frères. Pas loin d'Aubervilliers. C'est-à-dire, j'ai improvisé pendant 10 minutes un module. Et vraiment, ils parlaient fort, ils salissaient la chose. Et je leur ai dit, vous savez quoi? Quand vous vous comportez comme ça, vous êtes les meilleurs commerciaux de l'extrême droite. Parce que c'est à cause de vous que des jeunes, en plus, qui se comportent bien, qui vivent dans les mêmes quartiers que vous, se font stigmatiser alors qu'ils n'ont rien demandé. Et surtout, quand on appréhende cette situation, on peut pas mettre sur le même piédestal le jeune qui déconne du jeune qui se comporte bien. Voilà, il faut faire la séparation et peu importe l'origine sociale, c'est important.
Il y a un problème, problème supplémentaire, c'est sur l'absence de valeurs. Vous voyez, avant il y avait aussi des règles sur il y avait quand même du respect sur ça, dans le sens où on dit il faut un village pour élever un enfant, dans le sens où avant quand tu intervenais, un adulte va intervenir, tu vas les gronder. Il y a un peu le côté, ça pourrait être ta mère. Donc on va quand même écouter. Alors que là, on l'a pas. Vous voyez bien que ce qu'ils ont respecté, c'est les adultes dont ils ont peur physiquement. C'est-à-dire, j'ai vu, il y a certains, ils n'ont pas arrosé un jeune homme parce qu'il était musclé. Et on va s'attaquer. Vous voyez ce côté un peu lâche? C'est ça qui est plus effrayant. Le côté lâche, le côté on y va parce qu'on est plusieurs, un peu comme les Gremlins. Et c'est ce qui fait peur aux gens, parce que les gens ont bien repéré que ce n'est pas comme avant d'un point de vue générationnel. Et surtout que l'enfant se dise, de toute façon, mon père ou ma mère est derrière moi. Parce que, attendez, juste sur ça, moi, les élèves que j'ai eu des élèves très, très, très difficiles où on a réussi à régler la chose. Et des élèves où c'est parti complètement en vrille. La différence, quand j'ai appelé les parents, pour le dur, avoir des parents qui disent ok, on est ensemble, voilà, il y a un problème, on va le régler ensemble. Et dans l'autre cas, non, mon fils il est pas comme ça, mais pas du tout, il est gentil déni, à la quoi, maison, en fait, un déni total. Et quand 3 ans plus tard c'est devenu grave et ingérable à ce moment-là, là ils se disent ah oui, on aurait peut-être dû vous écouter à ce moment-là. Donc c'est signaux faibles, l'incapacité de voir les signaux faibles.
Donc là le gamin faut le récupérer maintenant, c'est ce que tu dis.
Oui, juste un dernier point,
Barbara, puis on va au 36-16, écouter Thomas.
Je veux insister sur ce qu'a dit Abel, c'est très important. L'immense majorité des jeunes issus de l'immigration, noirs et arabes, pour être rapide, se comportent bien, ont envie de bosser, sont volontaires, sont courageux. Certains ont des familles qui ne sont pas forcément dans un niveau scolaire qui peuvent les pousser, et pourtant ils poussent leurs gosses. Et cette petite poignée, non seulement de racailles, mais qui en plus sont dans le « wesh », dans le Walla, dans le 1-2-3, vive l'Algérie. Parce que je suis désolée, c'est ça. Ils portent un préjudice terrifiant à tous ces jeunes.
Pas puf, oui.
Mais non, mais ils en peuvent plus.
Je suis pas sûr que le fait qu'ils fassent référence à l'Algérie.
Mais bien sûr que si.
Non, je termine. Et un rapport avec son comportement délinquant.
Mais parce que c'est tout un package. Mais excuse-moi, c'est tout un package. Tu as vu les agresseurs de Louis. OK?
Surtout qu'il le ferait pas. On a vu les policiers à Algérie.
On a vu ce qui était floqué sur leur, on a vu ce qui était floqué sur leur pull. On voit bien dans quel mouvement ils s'inscrivent. C'est des gens, en plus, ils aiment quoi? Le discours, la police tue, etc. Donc, tout ça, c'est une minorité. Moi, je veux vraiment le dire, c'est une minorité qui porte préjudice à énormément de jeunes. On les a, nous, dans les classes. Et ces gamins-là, moi, j'ai de la peine pour eux, parce que on a une poignée de wesh dans l'établissement, et on a l'immense majorité qui n'est pas dans le wesh. Et ça, il faut absolument que cette weshisation soit arrêtée. C'est pas drôle. C'est
Thomas de Beaumont-sur-Oise, donc dans le Val-d'Oise, quand dites-vous, il est temps de le récupérer, ce gamin, ou il est déjà irrécupérable? Qu'est-ce que vous en dites?
J'admire Abel qui espère encore pouvoir le récupérer, mais moi je pense qu'il y a une partie de lui qui est déjà très loin, parce que à 14 ans faire ça, moi je me serais pris une torgnole par ma mère, mais direct quoi, elle m'aurait recadré en 2 secondes. Le respect, comme vous disiez, il a disparu. Moi je pense que malheureusement ce garçon, influencé par les réseaux sociaux, par les plus grands que lui, peut-être qu'il est un peu poussé aussi, mais alors moi ce qui me scandalise, c'est que voilà, comme vous disiez, personne n'a réagi. Mais moi j'aurais été là-bas, j'aurais pas mis. Pas une torgnole, mais je l'aurais attrapé et je l'aurais balancé dans le canal Saint-Martin. Ça aurait peut-être fait du bien.
Mais voyez, Thomas, non, mais c'est, sur les images, on voit les policiers qui se prêtent au jeu aussi.
Au début, c'est scandaleux. Moi j'aurais même interpellé la police, j'aurais dit, mais écoutez, vous êtes sérieux ou quoi? Vous le laissez voilà. faire, il emmerde tout le monde.
Attention, parce que les vidéos sont trompeuses. Au début, ils ont, mais parce que là, on met une succession de vidéos, on a l'impression que c'est le même jour.
Non, j'ai bien dit le premier jour.
Peut-être qu'ils n'auraient pas dû se prêter au jeu, justement, parce que.
Ce que je voulais dire, c'est que le policier, il aurait dû mettre le haut là. Alors oui, il faisait chaud, c'est bien, il est arrosé, mais il aurait dû mettre le haut là tout de suite. Et je suis désolé, moi, je comprends le monsieur qui avait sa béquille, mais moi, je vous dis, je serais sorti de ma voiture, mais je l'aurais rattrapé. Et qu'il soit plusieurs, bah tant pis, j'aurais risqué un peu, j'aurais peut-être pris des coups, mais j'en aurais rattrapé quelques-uns.
Et, si la police était intervenue, si la police était intervenue dès le début, vous auriez eu les associations, les machins, les violences policières, la police tue. Voilà ce que vous auriez eu. C'est pour ça aussi que les policiers n'interviennent plus.
On peut intervenir sans menacer de tuer.
Mais il y a un truc.
Mais non, c'est le discours qui aurait été tenu derrière.
Allez-y, Thomas, allez-y.
Ils n'allaient pas le fracasser non plus, ils allaient l'arrêter.
Ah, mais vous savez, avec eux.
Mais il y a été.
Mais vous savez qu'il y a été.
On leur retourne un ongle, c'est comme si on les avait tués.
Il y a été. Il est sorti de la voiture, il a plongé dans le canal.
Il a un culot monstre, ce Hamza.
Eh ben, c'est malheureux, mais il y a une brigade fluviale aussi. Ben, on génère les fluviaux et on l'attrape.
Oui, mais je.
Et on l'attrape. C'est bête, c'est un gamin de 14 ans, mais à un moment donné, stop. Et quand j'entendais l'avocate complètement barrée hier sur votre plateau, mais j'étais fou.
Maître Marcène.
Si je l'avais attrappé, elle aurait fait un vol planétaire.
Non, pas violent. Thomas, j'ai une question à poser à Abel. Parce que moi, je trouve en même temps ce gamin.
Du traitement médiatique.
Il a l'air quand même assez dégourdi. Il a un culot monstre. Il a quand même un culot monstre parce qu'il. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait pas en faire quelque chose de positif de ça? Parce que ça, je sais pas s'il est bon à l'école, s'il travaille, mais il a quand même un petit truc quand même de débrouille, quoi. Il a un truc rigolo. Tu te dis, ce type-là, ce môme-là, si on arrive à le remettre à l'endroit, avec son culot, son bagou, on peut en faire quelque chose.
Moi, je trouve pas rigolo quand j'étais.
Tous les jeunes ont du potentiel.
En fait, ce que je veux dire, c'est que là, il ressemble à beaucoup d'anciens.
Ce qui est terrible avec la jeunesse et avec comment ça va vite avec les réseaux sociaux. Hier, je disais, là, il est encore récupérable, mais peut-être que dans 6 mois, on l'a perdu, en fait. C'est maintenant qu'il faut agir. Et Fatima, tu sais très bien quel était l'ordre de grandeur des punitions des parents, surtout quand on était issu de l'immigration. Parce qu'il faut parler sans tabou. Le parent te parlait. Le parent pouvait te mettre une torgnole, mais si tu faisais vraiment des choses qui foutaient la honte à la famille, c'était quoi la punition ultime? Je te renvoie au bled définitivement. Ça s'est passé comme ça dans plein de familles. Moi, j'ai grandi dans un quartier populaire. J'ai vu des potes pleurer parce qu'ils étaient renvoyés au bled définitivement.
Mais c'est plus les mêmes familles et c'est pas la même génération. Là, on a la troisième, la quatrième génération. Donc, il y a ça aussi qui
revient. Ouais, mais le truc, c'est que je finis juste cette phrase. Les générations au-dessus, elles ont pas baissé la tête pour que aujourd'hui des jeunes jouent au con comme ça. Ils ont baissé la tête, ils ont accepté d'être méprisés parce qu'ils voulaient que leurs enfants aient un meilleur avenir qu'eux. Et quand on voit ce que font une certaine partie et beaucoup de jeunes, moi ça me fait mal au cœur.
Merci à tous d'avoir été au 32-16. Graines de voyous, petit déconneur, petit troublion, vous mettez graines de voyous à quasiment 90%. Dans un instant, le on s'en fout pas sur RMC et RMC Story avec Anaïs Inès Sainz. Vous êtes avec les Grandes Gueules, il est 10h20.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les Grandes Gueules.
Vous êtes avec les GG, avec les Grandes Gueules. C'est en direct sur RMC, la radio, RMC Story, la télé. Nous sommes avec Fatima Hidbounoua, la prof de français, Barbara Lefebvre, la prof d'histoire-géographie. Puis on a un éducateur avec nous. Je peux vous dire qu'avec Olivier, nous quittions pas des élèves forcément très cadrés. Bah, on se tient à carreau.
Mais on a fait des bêtises, hein. Moi, je reconnais
que... Oui, gentille.
Olivier Ladouane.
Un peu, j'ai fait quelques bêtises un peu sérieuses. Moi, je suis assez d'accord avec Abel. C'est-à-dire que tous les mots sont récupérables. Mais il faut les récupérer assez vite.
Allez, on y va pour le on s'en fout, on s'en fout pas, il est 10h moins.
Anaïs, par exemple, c'est trop tard.
Les Grandes Gueules. On s'en fout. On s'en fout pas.
Bonjour Anaïs Inès Sainz.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Cette information RMC d'abord de Bérangère Bocquillon. Vous savez, les nouveaux cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, ça ne suit pas. Seuls 6 élèves de primaire sur 10 en ont bénéficié cette année, des cours pourtant obligatoires. Est-ce qu'on s'en fout ou pas? Prof Fatima.
Non, on s'y intéresse.
Madame Lefebvre.
On s'en fout pas.
et mon cher Abel. Des séances qui sont pourtant essentielles à la protection de l'enfance. La raison principale de ce retard, les GG, c'est qu'il n'y a pas assez de formation et tous les enseignants ne sont pas forcément à l'aise avec ces questions. Autre frein, c'est la crainte d'une opposition de certains parents. Fatima.
Moi, je comprends que ça puisse aller lentement. Moi, j'ai suivi la formation, j'avais vu en ligne, il y avait une formation en ligne, donc je me suis dit, comme j'étais plus
c'est pour apprendre quoi,
à l'aise avec
trois séances obligatoires.
En vrai, oui, c'est ça. Donc on peut, ça peut prendre la forme qu'on veut dans les matières qu'on veut, et c'est adapté. Ce que j'aimais bien dans la formation, c'est ce qu'il rappelait trois choses. La première, c'est que c'était différent en fonction de l'âge de l'enfant. On ne parle pas de la même chose à l'école primaire, au collège, ou enfin en fonction de la classe, première chose. La deuxième, c'est qu'il y a une interdiction absolue, on ne doit pas parler de soi ou de l'enfant. C'est-à-dire, ce n'est pas un cours où tu racontes ta vie sexuelle, où tu vas trifouiller, où tu essayes d'avoir des infos.
Imagine la prof qui commence à raconter ta vie
sexuelle. Mais c'est ça, mais c'est très important parce qu'il y a eu des fantasmes ou des choses autour de ça.
Mais on raconte quoi alors, précisément? Alors,
normalement, ça va changer en fonction des âges, mais par exemple, c'est très axé sur le consentement, le corps, la conscience de son propre corps, et l'idée, voilà, mon corps m'appartient, un adulte, pour que ce soit des enfants vigilants.
Écoutez, je vous renvoie à... Moi, j'ai vu sur YouTube notamment... des pères et des mères particulièrement en colère de ce qui avait été raconté à leur enfant en CM1, CM2, avec des histoires de zizi, de où on met le zizi, qu'est-ce qui sort du zizi et compagnie. En CM1, CM2, les parents sont fous furieux. Et je vais vous dire, je les comprends. C'est pas des choses qu'on raconte à des enfants de primaire. Ça a sa place au collège, dans des cours de sciences, dans des cours d'éducation civique éventuellement sur la question du consentement, sur la question de la justice. Qu'est-ce qu'on risque sur les attouchements? Qu'est-ce qu'on risque sur les agressions sexuelles? La différence entre une agression sexuelle, un viol, etc., etc. Mais un enfant de 6 ans, 7 ans, 8 ans, on n'a pas besoin de lui expliquer ce que c'est la pénétration, ce que c'est la fellation. Je pense que c'est pas très utile.
Ah bon,
parce qu'il y a des professeurs qui sont peut-être pas bien formés. En tout cas, il y a des parents qui témoignent et qui disent qu'ils sont fous de rage et qu'ils ne veulent plus que leur enfant entende des choses comme ça à l'école primaire. Donc, excusez-moi,
après,
moi, je comprends les parents d'élèves.
Sexuelle, c'est 8 ans.
Oui, mais
la moyenne, c'est 8 ans.
Beaucoup de choses ont été dites, mais aujourd'hui, on parle d'éducation à la vie affective. Faut pas oublier qu'au début, on parlait d'éducation sexuelle à l'école, et c'est ça qui a commencé à crisper le débat. Et c'est-à-dire que cette société où on utilise le vocable de la vie intime de l'adulte que l'on transpose sur l'enfant, moi, je comprends qu'il y ait énormément de parents. Moi, j'étais totalement contre. Avant de voir ce qui se passait, moi, j'ai pu discuter avec les professeurs en ce qui concerne les établissements scolaires de mes enfants, parce que j'habite dans un village, les gens sont plus accessibles. Mais c'est vrai que moi, au départ, j'étais totalement contre et j'étais prêt à péter un câble sur le sujet. Donc aujourd'hui, il faut
d'enseigner le consentement, c'est quand même bien.
Oui, mais le problème, c'est que, comme dit Barbara, à partir du moment où chacun a sa sensibilité...
Il faut une meilleure formation.
Il faut une meilleure formation, il faut quelque chose de plus homogène aussi. Parce que le problème, c'est que d'un prof à l'autre, tu peux avoir des dérives.
Bon, les GG. Après le voilier, voilà la grosse berline allemande, l'eurodéputée LFI Manon Aubry aperçue à Bruxelles en train de monter dans une voiture diplomatique avec chauffeur. Est-ce qu'on s'en fout ou pas, Abel?
Je m'en fous pas.
Barbara?
Oh, je m'en fous pas.
Fatima?
Je vous laisse la parole, il y a un côté closer qui me déplaît.
Bon, après l'anniversaire de son père fêté sur un voilier, l'élu insoumise fait l'objet d'une nouvelle polémique sur les réseaux sociaux. Là, on la voit visiblement pressée avec sa valise à roulettes qu'elle donne de façon un petit peu expéditive au chauffeur, sans même rabattre la poignée ou encore sans même un regard. C'est ce qui a fait réagir certains internautes. J'ai eu l'équipe de Manon Aubry hier soir. On lui avait proposé d'intervenir dans les GG. Bon, elle a refusé. Elle dénonce une campagne de cyberharcèlement. Abel, pourquoi tu t'en fous pas?
Il n'y a pas d'explication sur la voiture corps diplomatique. Ils t'ont rien dit, l'équipe de Manon Aubry? Ce qu'on a vérifié avec Olivier hier, c'est quand tu es fonctionnaire ou député européen, tu as droit à une voiture avec corps diplomatique? Non.
Donc, quelque part, la gauche et l'extrême gauche se prend les pieds dans le plat, parce que quand on est de gauche, faut tellement être social, faut surtout pas être riche, ce qui est une grosse hypocrisie, en fait. Donc, d'un côté, je ne suis pas pour que l'on traque Manon Aubry, qu'on aille la chercher partout, parce que bientôt, elle sera suivie jusqu'au petit coin, la pauvre. Mais il faut assumer que tu peux être de gauche, avoir de l'argent, mener un train de vie, tout en respectant la dignité sociale des gens.
Elle fait partie des gens les plus riches.
Exactement, elle fait partie des personnes les plus riches et il faut pouvoir l'assumer. Donc, se justifier, c'est ça qui serait une erreur. Tu l'assumes. Jaurès, qui est la grande image de la gauche, il avait des robinets en or chez lui.
François Mitterrand n'était pas un ouvrier.
Exactement.
Mais peut-être que là, elle allait fêter l'anniversaire de sa mère.
Voilà. Je sais pas. Voilà. Parce que comme elle a fêté l'anniversaire de son père avec 6 mois de retard, bon, ce qui peut arriver, bien sûr,
Non, moi je donc de toute façon c'est ce qui arrive quand tu fais la leçon, hein, oui, parce que ces gens-là passent leur vie à faire la leçon au monde entier, leurs leçons, les leçons d'écologie, les leçons de vie.
Mais c'est quand même l'atteinte à la vie privée parce que là on la traque.
Oui, bien sûr. Oui, bah non, elle est dans l'espace public, c'est pas une atteinte à la vie privée. Moi, je veux juste poser une question. Donc, quand on regarde la déclaration de patrimoine de Madame Aubry à la Haute Autorité de Transparence pour la Publique Publique, elle a pas grand-chose cette dame. Elle a 60 000 euros en banque et un petit vélo.
Pas sa voiture là.
Non, non, elle a 60 000 euros. Ça fait 7 ans qu'elle est députée européenne. Donc, quand on fait le calcul, puisqu'elle est à peu près à 107 000 euros net en 2020, en 2026, son dernier salaire annuel, c'est 124 000 euros net sur l'année. Ce qui fait que sur 7 ans, elle a encaissé à peu près, et je vous mets à part les frais généraux et les indemnités forfaitaires. Oui, j'en suis certaine. Mmh. C'est presque 800 000. J'ai vu ça, c'est tout un décryptage sur LinkedIn, j'ai vu ça.
Ah bon?
Qu'est-ce qu'elle a fait de tout son argent à Manon Ré? Parce que peut-être je vois qu'elle traîne sa pauvre valise, là.
Elle paye un écho à LFI aussi, peut-être à la
Si ses voitures
elle donne pas un tiers de son salaire.
Non, mais si ses voitures diplomatiques sont mises à disposition pour tous les députés européens par le Parlement, enfin, pardon.
Non, les voitures diplomatiques, c'est pas.
Et au moins, si c'était le cas, elle peut pas avoir un regard pour le monsieur qui
est
invité à lui jeter la valise comme si c'était son larbin.
Attention aussi à cette société où tout le monde va se filmer, où tout le monde va se traquer, et on aura toujours un mauvais comportement à dénoncer.
Eh ben, quand ils arrêteront de traquer les autres, on les arrêtera de les traquer.
Moi, si je te filme toute la journée, ou Fatima, ou si on se filme nous-mêmes, vous voyez comment il a parlé au serveur, vous voyez ce qu'il a fait, il sort de ce restaurant, il était dans cet hôtel.
Tu fais la leçon, toi, à tout le monde?
Voilà.
Moi, je fais la leçon à tout le monde.
Oui, d'accord, mais c'est
elle fait la leçon à tout le monde.
Je suis d'accord. Elle est prise à son propre jeu. Bien fait pour elle, mais attention à cette société du flicage. Et ensuite, de la morale.
Un petit dernier, Osef, Anaïs.
Ah bah les GG, le ministère de la Culture qui veut s'attaquer aux anglicismes dans le basket en remplaçant des termes comme dunk par All-Star Game par des mots bien français. Est-ce qu'on s'en fout ou pas?
Non, madame la prof de français, vraiment.
Fatima Abel.
On s'en fout pas.
Non, je vais laisser mes collègues. Barbara.
Alors, comment traduiriez-vous les GG Money Time, par exemple? Une idée? Parce que... la minute en or. Le fameux trash talking dans le basket serait lui remplacé par le terme.
Le trash talking s'appelle chambrage en français.
Non, provocation verbale.
T'imagines le commentateur sportif en train de dire LeBron James a fait de la provocation verbale à Jimmy Butler. Attention, il reste 30 secondes pour le shoot à 3 points. Nous sommes dans le temps en or pour gagner le match.
Dans les moments décisifs.
Minute en or.
Moi, c'est
tu veux pas de la francisation?
Mais non, mais faut laisser les gens faire ce qu'ils veulent, en fait. Ça, c'est une communication où ils ouvrent des portes ouvertes, comme on dit. C'est-à-dire que,
Dunk, c'est un smash.
Super.
C'est en anglais aussi, Robin.
Vous savez, ce qui met en danger la langue française, ce ne sont pas les anglicismes techniques. Ce qui met en danger la langue française, c'est l'appauvrissement du vocabulaire, de la syntaxe. Et ça, c'est très, très grave, ce à quoi nous assistons ces dernières années. Pourquoi c'est très, très grave? Parce que ça enferme des enfants dans leur tête, car ils n'arrivent pas à se dire, dans leur monde, parce qu'ils peuvent communiquer avec des gens qui leur ressemblent et qui ont le même vocabulaire, et ça empêche de passer d'un monde à un autre, d'un registre de langue à un autre. Ça empêche de voir même le monde. Ça veut dire que la question de la langue, elle est essentielle, même pour lutter contre la violence. La question de la langue, elle est au cœur de tout. C'est très négligé. Et moi, ça me fait tellement mal au cœur quand on s'intéresse à cette question en arrivant comme ça par les anglicismes, avec le côté gadget. Mais je vous assure que si vous vous rendez compte de la gravité de la question... vraiment, ça nous ferait même pas rire de lutter contre les anglicismes.
Fatima,
comme ça.
N'est-ce pas que le pronom relatif est de plus en plus oublié, le que?
Oui,
le
là
qui.
Aussi, le que. Alors, c'est très compliqué, ça, ce que qui saute, on va dire. Ça saute partout.
Parce la que fille, j'ai vu, la au fille. Lieu de la fille que j'ai vue.
Parce bon,
que
nous, ça, quand, la fille, j'ai vu.
Ah oui, ouais. Parce que quand par exemple,
attention.
Pour le brevet, on doit leur expliquer la différence entre un que, pronom relatif et une conjonction, ils l'utilisent pas. Donc, même pour ça, c'est compliqué.
Allez, suite des GG dans un instant avec vous au 32-16.
C'est un autre truc.
RMC, 9h midi. Les grandes gueules.